France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Salut à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dans le rétro. On se connaît pas, présentation, moi c'est Déborah Grunewald. Alors je vous explique, ce qui va se passer c'est simple, pendant une heure, on va voyager dans le temps. À travers cette balade, on va traverser les époques au rythme des souvenirs, des anecdotes, de la carrière, des moments de vie d'un invité. Un grand homme aujourd'hui, comédien, metteur en scène, ancien directeur de théâtre et écrivain. Il est libre, émotif, instinctif, à fleur de mots. Il bouffe le monde et il va bouffer la scène du théâtre des Louvrets à Pontoise, en région parisienne, au mois de décembre. Mon invité aujourd'hui, c'est Jacques Weber, passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour maître.
C'est à moi que vous vous adressez.
Eh ben, ça arrive qu'on s'adresse comme ça à vous, paraît-il. Certains de votre, certaines personnes de votre entourage.
Sans doute parce que je suis grand et un peu gros, alors on m'appelle maître. Voilà.
Ou parce que vous êtes autoritaire, peut-être aussi, non?
Non, je crois pas que je sois très autoritaire. Non.
Vous êtes Jacques Weber, donc le roi Lear de Shakespeare, oui. Mise en scène Georges Lavaudant. Le roi Lear veut quitter le pouvoir et souhaite partager son royaume entre ses trois filles. Alors cette pièce, c'est la complexité de l'être humain. Ce sont les faiblesses, les vices, l'amour, la folie, le pouvoir. Voir la naïveté. Qu'est-ce que Shakespeare vous a appris sur les hommes et sur vous ?
Vous savez, quand il s'agit de Shakespeare, d'abord il s'agit d'une réflexion qui nous dépasse de très loin. Nous, on se sent nain, on se sent en espadrille devant l'Everest ou l'Himalaya. Mais en même temps, à chaque moment qu'on lit Shakespeare, qu'il s'agisse particulièrement du Roi Lear d'ailleurs ou de ses autres pièces, on a la sensation de toucher du doigt notre propre monde, qui est une sorte de fin du monde. Et Shakespeare a été l'un de ceux qui a décrit le mieux les fins de monde. Et nous sommes, oui, de façon absolument certaine, dans la fin d'un monde, pour ne pas dire, espérons-le, du monde. À l'heure actuelle, nous sommes, nous, vous et moi, des grands privilégiés qui pouvons en parler. Mais il faut savoir déjà qu'à notre époque, il y a plus des deux tiers du monde qui crèvent de faim, de soif, qui sont sous les bombes et qui donc, eux, sont déjà dans la fin du monde. Et si on ne pique pas un grand coup de gueule, si on ne prend pas des solutions extrêmement radicales, je m'éloigne du sujet, mais je crois que c'est important de le dire parce qu'il y en a marre d'entendre ces mensonges, d'entendre ces fausses vérités, ces petites décisions de petits bras qui s'apparentent au réflexe de l'autruche. Si tenter que le roi Lear non pas, vous savez, comme disait Villars, ce n'est pas le théâtre qui fera la révolution, c'est la révolution qui fera le théâtre, mais si le théâtre peut ne serait-ce qu'interroger une ou deux consciences par soir, c'est déjà quelque chose, c'est déjà ce qui me laisse espérer que ce que je fais n'est pas totalement inutile. Voilà.
Est-ce que vous voudriez qu'il soit révoltant aussi ?
Shakespeare pose des questions et qu'il ne donne pas forcément, parce que les donneurs de leçons, ceux qui donnent des réponses affirmatives, la certitude, c'est le début de la sottise, comme disait l'autre. Ce qui est très beau, c'est le principe d'incertitude et de questionnement qui font avancer le monde.
Se questionner, c'est une bonne chose, mais les dirigeants, est-ce que eux aussi doivent se questionner? Ils sont là aussi pour agir.
Mais attendez, oui, mais si on agit et qu'on agit dans le sens inverse de ce qu'il faut agir, quand on pense à la COP21, tout ça, bon, c'est très bien que ça se fasse, mais on sait que tout ça est parfaitement à l'heure. Quand on nous dit qu'il faut agir, mais qu'il faut en même temps rassurer son électorat, mais qu'il faut en même temps ceci, mais qu'il faut en même temps cela, tout ça c'est du baratin. Il faut à un moment être radical, comme a pu l'être sur le plan économique Roosevelt, par exemple, a pris des énormes décisions extrêmement anti-électoralistes. Enfin, c'était très... Ça a marché. Donc il y a un moment, je crois qu'il faut être beaucoup plus violent et radical qu'on ne l'est. Et moi, je suis pour toutes les manifestations rebelles, révoltantes qui viennent de la jeunesse. Nos philosophes prétentieux des télévisions ont assassiné Greta Thunberg. Je trouve que c'est des petits mâles qui ont des problèmes de culotte. Mais je trouve scandaleux qu'on ait assassiné cette môme qui a été comme ça courageuse.
Pourquoi et
qui a dit au monde. Bah, ils l'ont assassiné.
On s'écarte complètement du roi Lear.
On s'écarte du roi Lear, mais c'est tant mieux. Mais parce que Shakespeare me suscite sans arrêt ses réflexions. C'est une môme qui, devant le monde, a dit, mais réveillez-vous, vous êtes fous, moi j'ai pas envie que vous foutiez en l'air la génération future. Dumont, il y a 50 ans, qui a fait 0,002% aux élections, a montré un verre d'eau et a dit au public, vous voyez ça, un jour vous n'en aurez plus. Il a dit, vous vous comportez comme une génération qui n'aurait pas de génération à suivre. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, seulement tous les scientifiques qui parlent comme ça, on les prend pour des crétins. Là, maintenant, on commence à se dire, bah oui, ils ont raison, mais on peut pas faire autrement. Mais si, on peut faire autrement, parce que si on ne fait pas autrement, on crève. Et dans le roi Lear, pour en revenir au roi Lear, puisque vous voulez à tout prix que je revienne au roi Lear, il y a cette problématique de la fin. Ça commence par le mot qui fait tout exploser, ce roi qui croit avoir tous les pouvoirs, à un moment, souhaite que sa fille, qu'il aime le plus que tout au monde, lui dise qu'elle l'aime. Et il lui dit « qu'as-tu à me dire ?» Et elle dit « rien ». Ce mot « rien » veut dire tout. Ce mot « rien » dit tout de notre monde qui n'est plus rien. Et la pièce se termine par 5 fois, ce qui est très rare chez un auteur, par le mot « jamais, 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 jamais ». Et là, on se rend compte que Shakespeare, oui, est une passerelle avec un auteur comme Beckett qui a tout vu de notre monde en plein XXe siècle.
Évidemment, Shakespeare, vous êtes là pour en parler puisque vous jouez le roi Lear, mais on va aussi parler de la société par le biais de votre carrière. Ah, mais il y a tellement de choses à dire.
Mais je vous en prie, on est là pour ça, oui, oui. D'ailleurs, il n'y a que ça qui m'intéresse parce que mon nombril n'a aucun intérêt.
Comme beaucoup de gens, finalement, c'est une préoccupation que beaucoup de gens ont aujourd'hui.
Nous, on a tout le loisir d'en causer, on en cause, mais les gens ne font pas grand-chose. En fait, je crois qu'il faudrait faire des initiatives personnelles par rapport à sa propre vie, à sa propre intimité et des activités rebelles, révoltées. Oui, on doit descendre dans la rue. Et oui, c'est la rue qui gouverne et non pas la politique. Quand les politiciens disent « jamais la rue nous a donné, c'est jamais elle qui a donné le ton », ils disent complètement une contre-vérité historique.
On a l'impression que la rue n'est plus entendue aussi aujourd'hui.
Oui, c'est bien grave. Mais moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que on descende tous et on dit « ça suffit, maintenant arrêtez de mentir ». Et la COP21 est encore un énorme mensonge parfaitement dégueulasse, parce qu'il y a trop d'intérêts économiques en jeu, parce que la guerre est là, parce que tout ça. Mais bien sûr que c'est extrêmement complexe. Bien sûr que le pouvoir a des problèmes à résoudre presque irrésolvables, mais s'ils étaient un peu plus courageux par rapport au problème de l'électoralisme, peut-être qu'ils avanceraient beaucoup mieux et beaucoup plus vite.
Jacques Weber, c'est très con.
Oui, c'est très con quoi.
C'est très con. Bah, on n'a pas parlé de la pièce. Non, je ne me permettrai pas.
Ah bon, pardon, parce que de ce que vous dites, Jacques Weber,
je ne me permettrai pas. Non, mais c'est dommage, on n'a pas parlé de la pièce.
Mais si on en parle, je trouve que tout ça tourne. Mais je peux vous en parler, si vous voulez. Posez-moi les bonnes questions et je vous répondrai. Vous pourrez poser les bonnes questions.
Et vous me mettez la pression, là.
Non, mais moi, je suis prêt à vous en parler des heures, de la pièce.
Non, mais par exemple, on va faire un lien entre la pièce et votre métier, notamment. Dans Le Roi Lear, on retrouve de la flatterie basse et intéressée. Dans votre métier d'acteur, vous devez connaître ça, vous, non?
Je vais vous dire, je suis né le 23 août 49. J'ai réussi à me calmer un peu. Bien que je suis toujours aussi révolté, franchement, la flatterie ne me touche plus du tout, quand bien même elle m'aurait fait du bien et même fait du mal en même temps. Car la flatterie a ça d'ambigu, c'est qu'elle peut faire du bien sur l'instant, mais elle fait du mal à long terme.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'on s'endort sur ses lauriers. Moi, c'est ce qui a pu m'arriver à une période donnée de mon existence. Maintenant, j'ai envie de vous dire très humblement, d'ailleurs, que ce qui compte, c'est mon avis. Et mon avis est tellement sévère, et tellement plus sévère que n'importe quel avis qu'on peut me donner, que je crois que c'est le bon.
Dans Le Rétro, c'est le moment d'embarquer pour notre voyage dans le temps avec notre invité, le comédien Jacques Weber, sur France Bleu. Vous naissez en plein été à Paris. Vous êtes le 3e d'une famille de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Votre maman est mère au foyer, votre père est physicien, chimiste et directeur d'un laboratoire. Vous grandissez dans un milieu plutôt bourgeois. On va ouvrir cette porte. On est chez vous, c'est l'heure du repas. Vos frères et sœurs sont là, vos parents aussi, mais pas un mot à table. Vous vous souvenez probablement de cette phrase de votre père « Les enfants n'ont pas la parole à table ».
Oui, tout à fait. C'est une des phrases qui m'a le plus marqué. De même que celle qui suit, les petits imbéciles n'ont pas la parole à table. Et c'est vrai que mon père, bien que j'ai eu la chance merveilleuse de pouvoir me réconcilier avec lui par le biais d'une lettre, je crois, juste avant sa mort, très peu de temps avant sa mort, il n'y avait pas de haine entre nous. J'étais très frappé par le mépris, l'éloignement de mon père vis-à-vis de ma maman, de moi. Je trouvais qu'il y avait une forme d'incompréhension et de fatuité qui me déplaisait fortement. Mais c'est vrai que c'était un savant, c'était un type qui avait une très grosse tête, type qui apprenait le chinois à 80 ans, et il avait une espèce de... Je le trouvais vaniteux, mais peut-être me trompais-je, peut-être était-ce un homme orgueilleux, simplement, mais il y avait quelque chose qui ne passait pas entre nous. Voilà, j'ai pu parler avec lui de tous ces problèmes.
Parler ou écrire alors ? C'est pas pareil.
Et vous avez tout à fait raison de le souligner, écrire par pudeur et aussi par nécessité de clarté. Je trouve qu'on s'exprime toujours mieux en écrivant, puisque comme vous le savez, l'oral est le sale de l'écrit, voilà.
L'oralité fait qu'on est peut-être plus spontané aussi, parfois.
Oui.
Moins réfléchi, et du coup, on peut heurter peut-être
vrai,
plus facilement aussi.
Faisons toujours attention à ne pas être que sincère, voire pulsionnel. C'est d'ailleurs un des grands problèmes en ce moment. Lorsque les gens se parlent par biais du texto, le fameux texto, qui a ses bons et ses mauvais, ses très mauvais côtés, eh bien, il s'agit d'une pulsion. Je t'aime, je t'aime pas. Et maintenant, c'est je t'aime, J-T-M. Et il n'y a plus cette belle phrase. Cette mise à distance, cette régulation, ce mot que je n'aime pas, mais je n'en trouve pas d'autre pour le moment, de l'émotion et du sentiment, je trouve qu'il y a une élégance à avoir. C'est pas être vieux con que de dire ça, c'est simplement que il y a rien de plus dangereux que d'être uniquement pulsionnel, parce que lorsqu'on est uniquement pulsionnel et non réfléchi, ça veut dire qu'on redevient purement et simplement un animal sauvage, c'est aussi simple que ça.
Télétransportation. Nous sommes dans une salle de classe, CE1, CE2, vous vous mettez une chaussure sur la tête et vous déclamez.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Une façon excentrique d'être à l'aise avec votre timidité. L'excentricité, c'est un remède à la timidité.
C'est une façon de combattre ma timidité, c'est vrai. Oui, c'est un remède, tout à fait. L'excentricité est peut-être le point de départ de ma vocation pour être acteur, peut-être. Vous avez parfaitement raison. Mais il y avait aussi, dans ce « Je vous salue Marie », une haine volontairement déclarée de tout ce qui est bondieuserie et religion. Plus je vieillis, plus je suis contre toute forme de religion, quelle qu'elle soit, je dis bien quelle qu'elle soit. On en avait besoin, c'est nous qui les avons créées. On avait besoin quand même d'essayer de savoir un peu d'où venait tout. Alors on a trouvé une réponse, mais la façon dont les religions ont transformé le déisme, enfin la nécessité d'un dieu, quelle qu'elle soit encore une fois, c'est parfaitement abominable et toutes les religions sont responsables d'infanticides, d'homicides, de choses absolument et de génocides absolument effroyables. Quelle qu'elle soit.
Vous croyez en quoi, alors, Jacques Weber ?
Je pense qu'il y a une immanence. Enfin, je me dis bien qu'il y a quelque chose là-dedans, comme dit Don Juan, que je ne comprends pas. Mais quoi qu'il en soit, je crois que 2 et 2 font 4 et 4 et 4 font 8. Voilà, j'en suis à peu près là, vaguement là, autour de ça.
C'est
vrai que parfois, je regarde le ciel avec une émotion que je trouve étrange.
Parce que justement, j'allais vous poser cette question. En général, quand on vieillit, on est de plus en plus spirituel.
Mais on peut être spirituel sans être
croyant.
Déiste ou croyant. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Pour revenir à l'école, vous êtes fait virer, je crois, peu de temps après cet épisode-là. Oui. Vous avez été blessé par l'éducation nationale. Vous dites être un rescapé.
Je persiste et signe, puisque à une époque, je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé, on parquait les imbéciles d'un côté et les intelligents de l'autre. Il y avait les A, les A prime, et puis il y avait les C qui étaient scientifiques. D'ailleurs, ce qui était complètement con, on trouvait que les scientifiques étaient moins doués que ceux qui apprenaient le latin. Et moi, j'étais dans ce qu'on appelait la classe d'adaptation, c'est-à-dire des mecs qui étaient deux points inadaptés, donc les crétins. Et ça, je peux vous dire que vous trimballez ça toute votre vie. Là, 73 ans, ça va, je me suis soigné, ça va mieux. Mais pendant très longtemps, ça m'a énormément blessé et marqué. Oui, j'étais, aux yeux de l'éducation nationale, un crétin. Et c'était d'une férocité par rapport à un enfant absolument catastrophique.
Vous dites que vous vous êtes soigné avec le temps. Comment on se soigne de ça ?
Moi, j'ai eu cette chance de ne pas partir à la dérive. Après ça, je pouvais très bien partir à la dérive, devenir, être un voyou, un gangster, je sais pas quoi.
Parce que rejeté de l'école, parce qu'en échec scolaire,
j'avais plus rien. Mon père ne comprenait pas très bien. Il m'a dit à un moment donné, puisqu'il voyait que j'étais passionné par le théâtre, puisque dès l'âge de 13 ans, je crois, j'ai fait un spectacle amateur chez les Cœurs Vaillants, qui étaient, si vous voulez, vulgariser, qui étaient des scouts de gauche. Il avait vu que j'aimais le théâtre, alors il avait dit, c'est le service militaire ou le théâtre. Il se trouve que le théâtre, ça a formidablement marché. Donc, c'était tout dessiné.
Bon, écoutez, on va arrêter l'émission là, puisque vous m'avez...
Je vous ai tout raconté.
C'est terrible. C'était la suite de
trop.
Mon histoire, mais
tu
c'est pas grave.
Tu parles trop du soir jusqu'au matin, hein, les mêmes mots et les mêmes refrains.
Ah, mais je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à apprendre. On va continuer notre voyage dans le temps. Nous sommes dans les années 50. Vous faites partie du mouvement de jeunesse catholique des Cœurs Vaillants.
Rien d'impossible, C'est notre cri de ralliement, de ralliement. C'est notre devise infaillible.
Bon, c'est pas vous qui chantez, hein. Pourquoi vous plissez les yeux quand...
En même temps, je suis... si vous voulez, c'est ambigu, parce que les chœurs vaillants m'ont appris plein de choses. Ils m'ont appris d'abord la vie en communauté. Donc, il y a des choses extrêmement positives et magnifiques. Le reste, c'est que c'était un encadrement religieux que je conteste absolument, et qu'en plus, cet encadrement religieux, oui, était... maintenu par un curé pédophile qui, je me souviens très bien, nous confessait en nous mettant la tête entre ses jambes. Ils avaient, vous savez, les grandes soutanes. Ils nous mettaient la tête entre ses jambes et, comme pénitence, nous avions droit à un mordillage d'oreille. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, sur le coup, je ne me suis pas du tout rendu compte, j'en ai jamais parlé, parce que je ne me suis pas rendu compte que c'était un acte absolument dégueulasse, enfin, pédophilique. Et c'est beaucoup plus tard, en entendant tous les témoignages qu'il y avait autour de ça, je me suis dit, mais nom de Dieu, lui aussi, c'était un salopard. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Et c'est ça dont il faut se rendre compte, c'est que, pour nous, le curé était l'image de Dieu le Père, enfin.
Vous le dites, hein, j'ai été déçu par l'Église plus que par l'idée de
oui,
Dieu.
Oui, tout à fait.
C'est pas une déception. C'est une rage, c'est une haine à ce moment-là.
Maintenant, moi, j'ai la rage contre tout ce que j'entends de la part des religieux, qu'ils soient chrétiens, catholiques, musulmans, mahométans, juifs, tous ont parfois des excès. Il y en a merveilleux dans chacune des religions, je m'empresse de le dire. Mais il y a des excès qui sont inadmissibles. Et d'ailleurs, l'une des choses à regretter dans le monde chrétien, c'est que le pape Jean serait plutôt quelqu'un qui serait plutôt ouvert vers l'Église des pauvres et qu'il a contre lui la curie et toute cette bande de cons qui se battent contre l'avortement et autres conneries du même genre.
Conservateur.
C'est horrible d'être à ce point-là. Et à l'heure actuelle, ce qui est horrible, c'est que l'Europe se noircit de plus en plus, de plus l'extrême droite en Italie, en Angleterre, en Hongrie, en Turquie, partout. Et c'est bientôt pour nous dans les prochaines années. C'est réellement très, très oppressant. Moi, je suis oppressé. Je trouve ça très grave, ce qui arrive, vraiment très grave, qu'après tant d'années où il y a eu des conquêtes de la liberté qui se sont faites réellement, il y a eu des accroissements des inégalités sociales sur tout le parcours du XXe siècle. Mais parce que, vous savez, c'est parce que les gens, justement, maintenant... ils zappent, donc ils n'ont pas le temps de prendre le temps. C'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre notre temps. Il y a pas longtemps, j'étais avec un chauffeur de taxi, il me dit « Ah bah maintenant on va rouler à 110, mais c'est toujours nous qui prenons. Et alors les avions, alors qu'est-ce qu'on va dire des avions ? Et bien vous croyez qu'à l'Élysée, il se chauffe à 19 degrés ? Ah non, c'est toujours les mêmes qui prennent. » Donc si vous voulez, il y a toutes ces réactions. Et c'est vrai que pour un gouvernant, c'est très difficile à équilibrer. Mais c'est son boulot, on l'a élu pour ça. C'est vraiment catastrophique. Je pense qu'il faut, à un moment donné, se dire « on est tous dans la même catastrophe ». On va quand même pas attendre d'être dans une autre catastrophe qui consistera, comme tous nos frères, parlons de fraternité. Nous ne sommes plus, madame, ni français, ni européens, nous sommes des terriens. Et les trois quarts de nos frères crèvent la dalle, crèvent de soif. Il y a des femmes avec les seins aplatis qui ont leur enfant qui meurt de faim sur leur sein. J'ai vu tout ça. J'ai dit la pêche du jour, un texte merveilleux de Fotorino sur les SOS Méditerranée.
Vous êtes révoltée.
Oui, madame.
1961, vous avez 12 ans, nous sommes place Colette, dans le premier arrondissement de Paris. On va marcher vers le numéro 1 de la place. On va pousser cette porte. Nous voici à la Comédie Française. Vous êtes là avec le deuxième mari de votre grand-mère. Vous allez voir l'Avare avec Georges Chamara. À la fin, le Deus Ex Machina, c'est un personnage qui intervient de façon inattendue. Ce jour-là, c'est Henri Roland. C'est lui qui déclenchera chez vous l'envie profonde de faire du théâtre. Beaucoup ont envie de devenir acteur. Peu le deviennent. Qu'est-ce qu'il vous a fallu pour faire de votre rêve une réalité et un métier ?
D'abord, je tiens à vous remercier parce que quand vous invitez quelqu'un, vous savez de quoi vous causez. Enfin, vous êtes très informé. Non, mais c'est vrai. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un film qui s'appelait L'extravagant Mr. Ruggles et dans lequel Charlton jouait. À un moment, il y a un noble qui se trompe de soirée. Il devait aller dans une soirée très noble, très aristocratique, et il tombe dans une surprise partie. Et il tombe sur une superbe blonde et il tombe en émoi. Et il lui dit « Croyez-vous au coup de foudre ?» Cette jeune femme lui répond « Pas du tout, mais pas du tout. » Et il répond très flegmatique et très anglais « Alors vous me permettrez de rester encore un peu. » Voilà. Et donc moi, quand j'ai un coup de foudre, quand j'ai une espèce de coup de feu dans la tête, eh ben, je me permets très fortement de rester longtemps. Voilà.
C'est la persévérance alors.
Oui. J'ai, à partir du moment où j'ai eu cette espèce de flash incroyable à la Comédie Française, je n'avais pas de cesse que de jouer, de travailler le théâtre.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunwald.
Direction maintenant les années 60. On a l'impression que c'est votre ventre qui fait du bruit. 1966, vous avez 17 ans, vous donnez la réplique à un de vos potes qui passe une audition. Il y a là le comédien Pierre Brasseur. Il dira, c'est pas celui qui passe l'audition qu'il faut prendre, c'est celui qui donne la réplique, en l'occurrence vous. Pierre, c'est une des personnes qui a le plus compté dans votre vie. On l'écoute sur RTF en 1950. Il parle de sa mission d'un acteur.
Oh, j'adore, merci, c'est gentil, merci.
Il parle de la mission d'un acteur dans notre société.
Ouais, je crois que sa mission, alors oui, si on veut, s'il doit y avoir une mission, et dans la vie sociale, ça consiste surtout à faire voir une image exacte du bien et du mal, du beau et du laid. Un acteur a le devoir de se faire tantôt détester et tantôt adorer. Il doit faire peur ou faire plaisir.
C'est formidable, je trouve. C'est pas ce que j'aurais dit. Vous savez, c'était plus qu'un acteur, c'était un vrai monstre sacré, Pierre Brasseur. Il avait une voix comme ça, ouais. qui allait déterrer le diable. Ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, ça veut pas dire que nous sommes des justiciers et des moralistes, mais c'est l'exposition des deux extrêmes qui forment notre monde, qui est la farce et le tragique.
Mais on le voit dans cette émission avec vous ?
Bah, peut-être.
Finalement, dans vos prises de parole.
Bah oui. Non,
quand mais... on l'écoute parler, voilà, je vous voyais là pendant cette émission en fait.
En tout cas, je peux vous dire qu'avec lui, j'ai appris la nuit, j'ai appris l'homme, j'ai appris la femme aussi, j'ai appris toutes sortes de femmes.
Vous avez tout appris en fait.
La belle femme, la jeune femme, la pute, j'ai tout su. Et la pute qui n'est pas le contraire d'une belle femme, d'ailleurs bien au contraire, c'est des femmes malheureuses qu'il faut respecter souvent. Enfin, c'est... Non, j'ai vécu des choses magnifiques avec lui. Oui.
Au début des années 70, vous sortez du conservatoire avec le prix d'excellence télétransportation.
Le jury vous accueille.
Nous sommes en 71, vous avez 22 ans, vous sortez d'un rendez-vous avec l'acteur et metteur en scène Pierre Dux. C'est lui qui décide de la programmation des pièces à la Comédie Française. Il vous propose de rejoindre la Comédie Française, justement. Vous sortez de ce rendez-vous et puis vous rejoignez Nathalie Baye dans le bistrot du coin. Et après avoir réfléchi quelques minutes, vous rappelez Pierre Dux et vous lui dites « Je refuse, j'aime pas votre maison, j'aime pas les gens qui y sont, j'aime pas ce que vous faites. » Beaucoup auraient été ravis d'une telle proposition, et puis d'autres, si ces personnes avaient refusé, elles auraient dit « Écoutez, c'est très gentil, mais je vais pas avoir assez de temps, j'ai d'autres projets. » Vous, vous y êtes allé cash.
Oui, mais vous voyez, c'est ce que je trouve plutôt bien, c'est qu'à 73 ans, je retrouve un peu ce que j'avais un peu perdu en cours de route. À un moment donné, j'ai voulu être diplomate. Et là, je retrouve cette vieille rébellion que j'avais. C'était un petit peu extrêmement outrancier par rapport à la Comédie Française. Je vous expliquais pourquoi en deux mots. J'étais un enfant de 68. Et on était en 71. Il y a, la marque de 68 était encore extraordinairement là. Et si vous voulez, pour nous, dans ma tête, il y avait le TNP qui était théâtre de gauche et la Comédie Française qui était théâtre de droite. Ce qui était un peu stupide, je vous l'accorde. D'autre part, je trouvais que le français avait un vieux ton.
Qui jouait un peu comme ça, avec une voix très chaude et très émue.
Et là aussi, j'exagérais beaucoup parce que, paradoxalement, où est-ce que j'ai été voir l'Avare? Où est-ce que j'ai été voir et les Hirsch et les Charon et les Roussillon et les Michel Aumont et les Jean Piat et tout ça? C'était à la Comédie Française. Donc, vous voyez, j'étais déjà paradoxal aussi.
mais cache quand même. Comment on fait pour avoir cette assurance ?
Au moment même où j'affirme des choses comme j'ai pu les affirmer tout à l'heure, j'essaie de comprendre en même temps toutes ces horreurs ou même tous ces gens que je trouve horribles. J'essaie de comprendre ce qu'il y a, ce qui se passe en eux, parce que tout le monde n'est pas totalement bon ou totalement pourri. Moi, j'ai sans doute quelque chose d'extraordinairement pourri en moi. Mais en même temps, je pense qu'il y a un moment où on a des convictions et qu'il faut toujours, toujours essayer d'éviter la terreur. Il y a des effets pervers à toute forme de révolution, entre autres l'horreur de la terreur, du stalinisme, des Khmers rouges, des j'en passe et des meilleurs.
Mais pas sur un point de vue sociétal, vraiment sur un point de vue plus lié à vous,
Je pense que la façon dont parfois je me rebelle extrêmement violemment cache plus de l'inconfiance et de l'incertitude qu'autre chose, qu'une certitude.
Mais ça n'empêche pas la conviction.
Voilà, bravo. Déborah, vous avez trouvé exactement le mot, la nuance que je cherchais. Je vous en remercie. Oui. Voilà.
On part maintenant, Jacques Weber, en 1991, télétransportation. Nous sommes à la cérémonie des Césars. Vous recevrez la récompense du meilleur acteur dans un second rôle pour Cyrano de Bergerac.
Donc, l'heureux élu est Jacques Weber dans Cyrano de Bergerac.
Jacques Weber fut Cyrano sur la scène en 1983 dans une mise en scène de Jérôme Savary. Jacques Weber dirige le théâtre de Nice et campe dans Cyrano un magnifique de guiche.
Alors c'est amusant parce que la première récompense que j'ai eue, c'est un César, alors même qu'on m'a toujours dit que j'étais un homme de théâtre. J'ai été président des Molières et j'ai reçu cette année...
Donc qui récompense le théâtre.
D'ailleurs, ce que j'étais tout à fait bobby, j'y croyais pas du tout, un Molière d'honneur. Et je n'ai jamais eu, par contre, ni nomination, ni Molière.
Donc les Molières, c'est vraiment propre au théâtre, et les Césars, c'est propre au cinéma.
Oui, tout à fait, mais voilà. C'est bizarre quand on dit d'un homme, et d'ailleurs c'est vrai, un homme de théâtre. Première récompense que j'ai, c'est un César, et j'ai jamais eu de Molière, si ce n'est que j'ai été président des Molières, et puis ensuite j'ai eu un Molière d'honneur. C'est très touchant.
Est-ce que c'est grâce à cette reconnaissance qu'on peut avoir une meilleure estime de soi ?
Ce qui m'a fait très très plaisir, c'est le nombre extrêmement important de gens dans la rue qui m'ont accroché en me disant qu'ils avaient été parfois bouleversés, enfin qu'ils avaient trouvé formidable en thérapie, le feuilleton que j'ai fait. Et lorsqu'on vient de me retrouver, monsieur, je vous ai vu dans Le Roi Lear, oui, je vous ai trouvé ceci, ceci, cela. Ça me touche beaucoup parce que je pense qu'on a fait un très beau travail avec la Vaudan.
On y retourne. Nous sommes au théâtre. Vous mettez en scène Don Juan de Molière. Vous avez le rôle principal. C'est pas un carton. On entend les spectateurs se dire « il a grossi, il a vieilli, c'est pas lui, c'est pas possible ». Ce genre de remarques, on demande souvent aux femmes ce que ça leur fait. Mais vous, Jacques Weber, quand vous entendez ça, vous ressentez quoi ?
C'était dans quelle pièce ?
Dans la mise en scène de Don Juan. Vous avez vous-même mis en scène Don Juan.
Oui, tout à fait, le film Don Juan. Moi, j'en veux pas tellement aux gens de dire ça. Je m'en veux à moi de ne pas avoir suffisamment travaillé. Il m'est arrivé une chose qui était d'un côté absolument à souhaiter à tout le monde et de l'autre surtout à souhaiter à personne. Ça veut dire qu'en moins de 2 mois, j'ai réussi à monter un film et le tourner. Et en plus, j'ai fait des erreurs très prétentieuses. Je me suis dit, non, Don Juan, c'est pas sa beauté qui séduit, c'est autre chose. Et comme j'étais en effet, beau garçon, alors je me suis laissé aller, je me suis fait grossir et tout. J'ai fait le scénario, j'ai fait la mise en scène, et il y a un moment donné, non, je ne sais pas écrire un scénario, c'est pas mon métier. En plus, on tripote pas à Molière comme ça, sous prétexte que sa pièce est mal foutue, ce qui est vrai, mais elle est mal foutue génialement. Alors pour faire du mal foutu moins génialement que Molière, faut vraiment être crétin. Et puis il y a d'autres choses, mais voilà.
Mais c'est marrant parce que vous réfléchissez justement à ce sur quoi vous vous êtes loupé. Moi, je voulais juste votre réaction par rapport à ces commentaires qui peuvent paraître anodins, mais qui blessent parfois une femme, notamment
très honnêtement,
en tant qu'homme.
Très honnêtement, je m'en fous royalement. Ouais. Par contre, je peux vous dire, puisque vous voulez tout savoir et que vous avez l'air d'en savoir beaucoup.
Et que je lâche rien, c'est ça ?
Non, mais il n'y a pas de problème. Pendant un moment, je le dis parce que voilà, ça fera du bien à ceux qui ont ce problème. J'étais considéré comme un très 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 bel homme. On disait, oh là là, quand Weber arrive, il est magnifique, il est beau, etc. Ce qui arrive à mon fils en ce moment, mais maintenant on me dit, ah, vous êtes le père de Stanley Weber, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Mais moi, J'avais un problème, c'est que j'avais des boutons dans le dos, j'avais de l'acné, donc j'avais honte, encore le mot honte, de mon dos, et je savais que j'étais pas si beau que ça, et que qu'est-ce qui allait se passer quand il allait falloir se mettre à poil. Donc si vous voulez, ça a été un traumatisme très 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 long à supporter.
Un complexe.
Et là, oui, si quelqu'un me disait « Ah, c'est affreux, des boutons dans le dos !» Alors là, j'étais blessé à mort, je peux vous le dire, et ça m'est arrivé.
Ça
il y en a d'autres
beaucoup,
qui m'ont dit
ça.
Ah non, j'adore les boutons. J'ai dit encore une tarée.
Ça, c'est de la basse flatterie.
Voilà, oui, ça vous tout à fait, vous avez raison. Voilà.
La séduction de Don Juan, elle n'est pas liée à son apparence physique, mais à son langage, entre autres. Est-ce que la façon de séduire a changé aujourd'hui?
Ce qui est tout à fait évident, légitime et merveilleux, salutaire, c'est qu'il y a en ce moment une immense évolution, pour ne pas dire révolution, c'est le regard posé sur les femmes. Le patriarcat est en train de mourir, Dieu merci. Heureusement, c'est formidable. Moi, je le dis avant d'être féministe pur et dur, et tout cela entretenu et éveillé grâce à ma femme et à ma fille, je réfléchis beaucoup sur ces questions-là. Mais il faut d'abord faire sa propre autocritique. Moi, à une époque, oui, j'ai été un gros dragueur. Oui, je pensais que si une fille montait dans ma chambre, c'était parce que j'étais sûr que j'allais pouvoir la sauter, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, j'ai été grossier, pâteau, lourdingue à une époque.
Alors, est-ce que être gros dragueur, lourdeau, etc., c'est mal?
Oui. C'est mal, parce qu'on peut très bien, le jeu de la séduction entre hommes et femmes durera toujours, Dieu merci, mais sur ces bases-là, sur ces bases permises et autorisées, il y avait des autorisations de supériorité qui étaient accordées, de machisme, qui sont vraiment parfaitement insupportables, qui sont pas légitimes, qui est parfois un rapport d'homme à femme, qui est un rapport très complexe à définir sans que le patriarcat s'infiltre, sans que le machisme s'infiltre dedans, sans que la vulgarité, sans que la supériorité s'infiltre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça doit exister. Oui, c'est très très beau la séduction entre un homme et une femme, mais ça doit toujours avoir un respect, une élégance très très profonde, un respect profondément de l'être humain. Et quand on voit l'état misérable dans lequel encore la façon dont sont traitées les femmes dans certains pays, la façon dont on les traite même encore sur le plan sociétal dans nos pays, il y a de quoi hurler. Et vive les grandes, grandes dames comme Gisèle Halimi et comme toutes ces femmes formidables, Delphine Seyrig, Simone Veil, et j'en passe.
Vous parlez des
salopes
hein
et tout.
Vous parlez
oui, mais il y en a
anciennes.
Des nouvelles, pardon, là j'ai pas les noms en tête, mais il y en a des faits. Mais vous savez, la façon dont on a jeté la Lali sur, cette femme qui a parlé de l'entrecôte, c'est que j'ai un trou.
Sandrine Rousseau.
Rousseau. On l'a doué sur le barbecue, oui. Enfin, voilà. Ça en dit très, très long sur la façon dont, justement, elle a mis la gêne, mais elle a posé les bonnes questions, je crois. De toute façon, moi, j'aime beaucoup Sandrine Rousseau. Voilà.
Jacques Weber, on change d'époque. Nous sommes dans une librairie. Là-bas, il y a un livre, « L'éloge de la grève » de Léonard Vincent. Vous en avez lu un extrait, la vidéo a été diffusée au meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier. Pour vous, il aurait été l'homme de la situation, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui?
Très honnêtement, le mouvement qu'il a crédité, qu'il a lancé, est le bon mouvement. Ça, je le pense profondément. D'ailleurs, vous avez dû le sentir depuis le début de notre interview. Mais par contre, l'homme lui-même, je ne le sais pas. Moi, j'aime beaucoup l'homme. Je l'ai rencontré. C'est un homme, d'abord, qui a une culture absolument admirable et qui est en plus un tribun absolument inouï. Je pense que c'est un être extrêmement humain. Après, il y a peut-être chez lui parfois des vagues d'une vague mégalomanie, peut-être qui peut exister, mais qui existe dans grand nombre de politiques. Et c'est pas là-dessus qu'il faut le condamner. Moi, c'est un homme que j'aime beaucoup de toute façon. Il a ses qualités, ses défauts. J'ai les miens. Je suis pas sûr parce que je ne sais pas quel est l'homme de la situation, mais j'adore. Vous savez, je vais vous dire un truc. Lorsque Ruffin dit à une émission de télé, écoutez, c'est très clair ce que j'ai envie de vous dire, s'il y en a qui se gavent et il y en a qui en bavent, voilà, c'est très clair. Ah bon, et alors au bout de 5 minutes, on lui dit, mais alors si je comprends bien, vous essayez de prendre une hauteur présidentielle. Mais il dit, mais le problème n'est pas du tout là. Et à chaque fois, on renvoie sur le jeu politique, sur l'entrelac politique, alors même que ce dont il faut parler, ce sont des problèmes concrets. Et les gens que j'entends le plus clairement, eh ben, très clairement, qui travaillent leur dossier, eux. Ce sont des gens comme Ruffin, comme Mélenchon, comme, voilà, comme Sandrine Rousseau, comme tout ça. Voilà.
On est dans le futur. On est en 2042. Il fait froid. Jacques Weber, vous êtes là, en haute montagne. Vous venez de vous faire un bon dîner chez votre pote Marc Vera. Vous êtes maintenant assis seul, face à vous-même. Vous repensez au temps qui passe, à votre vie, à ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Qu'est-ce qui vous manque en 2042 du temps passé ?
Alors d'abord, en 2042, je suis sans aucun doute pas, hélas, à la table de mon ami Marc Vera. J'erre comme beaucoup d'autres gens. Il se peut que je crève de faim. Il se peut que je mendie. Il se peut que je sois au coin d'une rue. Il se peut que je me rende compte que le malheur, ça n'arrive pas qu'aux autres.
On a du mal à l'imaginer quand même.
Justement, c'est bien ça le problème. C'est que les gens ont beaucoup de mal à imaginer que ça peut très vite nous rattraper. Vous savez, pareil, le problème de l'eau, le problème... Regardez dans certains pays de la France, ces tornades, ces trucs qui s'abattent du jour au lendemain, les gens, pas une seconde, pouvaient s'imaginer ça, les feux, etc. Bon. Ce que je pense, par contre, c'est que je me dirais, j'ai eu cette chance magnifique de traverser une des plus belles époques où la liberté m'est ventilée à mort, quoi, qui était entre les années 60 et les années 90, quoi. Ça a commencé à baisser en 85, mais ça a été une période absolument folle et libératrice et merveilleuse. Et il y a eu un premier coup d'arrêt, comme une espèce de coup de semonce, qui a été le sida, qui a été une chose dont on parle moins maintenant, mais qui a été une catastrophe absolument considérable. Mais je me dis que je fais partie des très grands chanceux qui ont connu cette époque-là. Oui.
Jacques Weber, vous dites aimer l'espièglerie de Mozart et la tendresse de Schubert. On termine donc en musique ce voyage.
Très gentil, merci.
Schubert, ben oui. Le chant du cygne, une de ses dernières compositions. Shakespeare a écrit « Il ne suffit pas de parler, il faut parler juste. » Et la justesse de la parole, c'est peut-être ce qui vous qualifie, Jacques Weber, finalement. Je pense qu'une fois de plus, on l'a eu la preuve dans cette émission.
Je ne sais pas si elle était juste, en tout cas elle était sincère. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission parce que j'ai parlé du fond du cœur. Et j'ai libéré un peu mes tripes. Et vous savez, j'avais dit à ma femme avant de partir, je vais essayer de me contenir et d'être sage. Et en même temps, j'ai dit, puis tu sais, moi j'en peux plus. Je trouve qu'il faut vraiment maintenant redire vraiment du fond du cœur ce qu'on a envie de dire. Et je l'ai fait. Et terminé par Schubert, je vais vous raconter une petite histoire sur Schubert merveilleuse. C'est que il va pour mourir, il demande 5 cordes dans sa chambre minuscule. Il avait juste écrit la partition de la musique. Il écoute sa propre œuvre et avant de mourir, il dit, enfin quelques heures avant de mourir, je ne savais pas que c'était si beau. C'est merveilleux ça, non ?
Voilà. Et on va terminer avec ça.
Ouais, si vous voulez. Merci. À bientôt, Déborah. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre acuité. Voilà.
Merci Jacques Weber d'avoir fait ce voyage avec nous. La justesse des mots, des gestes, il est impérieux et généreux. Jacques Weber était notre invité. Il sera sur la scène du Théâtre des Louvrés à Pontoise en région parisienne les 14, 15, 16 décembre dans le costume du Roi Lear de Shakespeare, actuellement aussi à Lyon. 3 dates seulement dans le Val d'Oise. Infos et réservations sur internet. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour ce voyage dans le temps. On remet ça la semaine prochaine, samedi, dimanche 14h dans le rétro sur France Bleu et à tout moment en podcast sur l'application ICI. CI, bon après-midi, bon week-end, prenez soin de vous, salut.